et Brigitte pour reprendre en live les plus grands titres de Gainsbourg. Pour assister à cette soirée exceptionnelle, en direct du Studio 106, inscrivez-vous dès maintenant par mail à l'adresse suivante soireegainsbourg@radiofrance.com.
Passez la journée, c'est chic, avec Serge Gainsbourg.
Mercredi prochain, sur France Inter et sur franceinter.com.
France Inter présente Requiem 3 de Vincent Macaigne au Théâtre des Bouffes du Nord, du 1er au 12 mars. Deux frères, une couronne, ou l'histoire de nos espoirs piétinés, de nos colères intimes et collectives. Retrouvez Requiem 3 dans les émissions de France Inter.
France Inter.
La différence.
Il est 15h, passé de 4 minutes. Vous écoutez donc France Inter. Et tout de suite, c'est Daniel Mermet pour Là-bas si j'y suis.
Bonjour. Ben Ali, Hosni, Kadhafi, Berlusconi et Sarkozy. Vive l'Union pour la Méditerranée. À bientôt.
Je souhaite une bonne fête à tous les auditeurs de Là-bas si j'y suis. Aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est la Saint Modeste. Je ne sais pas s'il était génial, Modeste. En tout cas, il était évêque. Et il semblerait qu'il ait été évêque de Trèves quand Clovis devena roi des Francs. Tiens, ça fait 1530 ans, je ne sais pas si vous voyez quoi. Ça en fait du temps. Ça me fait penser que la gauche a gagné la présidentielle en France exactement 1500 ans après que Clovis soit devenu roi des Francs. Un millénaire et demi, il a fallu quand même. Donc c'est drôle quand même de penser que le saint patron des auditeurs de la Basse si j'y suis, c'était un évêque. Et bon, hein, les voix du... je sais plus de qui, du Seigneur, sont impénétrables. Alors bonne fête à tous.
Ce matin, une intervenante à France Inter sur la lancée des libérations des peuples arabes demander le point de vue à Alain Juppé sur l'occupation d'Israël en Palestine. J'ai même entendu que ce n'était pas la question qu'elle devait poser. Elle a compris qu'elle n'aurait pas passé. Et oui, à quand le tour de la Palestine ? Tous les Occidentaux soutiennent la libération des peuples arabes. Ah non, pas la Palestine ? Israël n'est pas une dictature. Les 2000 morts palestiniens fin 2008, ça ne compte pas. Oh là là, c'est compliqué la politique. Ciao.
Bonjour les amis d'Angers et du Maine-et-Loire, chers AMG. Ensemble, nous allons créer un nouveau café repère à Angers. Venez nombreux à la première réunion le mardi 1er mars de 19h à 21h au Café des Orfèvres, 14 rue du Musée, derrière la Tour Saint-Aubin à l'entrée du Musée des Beaux-Arts d'Angers. Nous comptons sur tous les amis de Là-bas si j'y suis pour animer nos discussions. Vous pouvez déjà prendre contact par courriel à l'adresse suivante. angers.cafrepere@gmail.com. Merci et à mardi prochain, 19h, au Café des Orfèvres à Angers. Bonne journée.
Un petit conseil aux Libyens qui se sont pris deux ou trois balles dans le ventre. Premièrement, prenez le premier tissu qui vous tombe sous la main et pressez les blessures pour éviter l'hémorragie. Deuxièmement, soyez patient. Tout va bien. D'abord, le grand dirigeant qu'est Nicolas Sarkozy ne recevra plus jamais Muammar Kadhafi. Plus jamais. Et surtout pas en visiteur d'honneur. Et surtout pas le jour de la journée mondiale des droits de l'homme. Et surtout pas en lui faisant assister au défilé du 14 juillet. Surtout pas en lui laissant planter sa tente dans nos jardins. Ensuite, l'Union européenne ne va pas tarder à prendre des mesures. Et l'ONU ne tardera pas non plus à prendre une résolution qui sera scrupuleusement respectée, comme ont été toutes ces résolutions depuis sa création. Alors, patientez, pressez bien sur vos blessures, et ne vous inquiétez pas, tout va bien.
Je suis chômeur de longue durée. Il y avait une dispense de recherche d'emploi à 55 ans, puis cela a été reporté à 56 ans. À 56 ans, c'est 58 ans. À 58 ans, c'est 60. C'est donc s'en prendre au plus faible, et cela prouve qu'il y a une volonté délibérée d'écraser ceux qui ne trouvent plus d'emploi et sont déjà dans la misère. C'est une honte. C'est un fidèle auditeur qui habite dans les Hauts-de-Seine.
Contre les gaz de schiste. Oui, l'Ardèche se mobilise en force. Mais on n'a pas envie de renvoyer seulement l'image d'écolo intégriste post-68ard. On est d'abord des habitants de la planète, sensibles et attachés à leur environnement, peut-être précurseurs dans la maîtrise des consommations d'énergie ou du développement des énergies renouvelables. Les centrales hydroélectriques datent des années 1960. Et nos territoires sont protégés par des parcs naturels, le parc naturel des Cévennes, le parc régional des Monts d'Ardèche. Si on s'oppose à la prospection et l'exploitation de nouvelles énergies fossiles, c'est parce qu'on n'a qu'une planète et qu'on préfère gérer la pénurie du pétrole que le remplacer par le gaz de schiste. Alors stop au profit des multinationales de l'énergie, ni ici, ni ailleurs. Et manifestation samedi 26 février à Villeneuve-de-Berg à 14h.
Voilà, il y aura du monde samedi à Villeneuve-de-Berg pour manifester contre cette histoire de gaz de schiste. Avouez, en tout cas, nous avouons que nous n'avions jamais entendu parler de cette histoire de gaz de schiste jusqu'à il y a quoi, un mois, un peu plus d'un mois. Et c'est vous qui nous avez parlé de ça, qui nous avez alerté sur cette histoire de gaz de schiste à travers vos messages et vos mails en nous disant c'est incroyable, il y a ce phénomène invraisemblable de gaz de schiste, on va exploiter, on va explorer, on va faire des recherches sur le gaz de schiste dans un tas de régions en France. Et on ne savait pas, des accords ont été signés entre le gouvernement et un certain nombre de grandes compagnies pour prospecter et puis pour exploiter le gaz de schiste. Ah bon, mais c'est quoi ce gaz de schiste? On a voulu quand même en savoir plus, d'autant que il y a une énorme bataille qui a lieu actuellement aux États-Unis, une énorme bataille qui a lieu actuellement au Canada sur les dégâts engendrés par l'exploitation de ce gaz de schiste, ces bulles de gaz qui sont enfermées dans du schiste à 2000 ou 3000 mètres de profondeur et qu'on extrait par des moyens qu'on va nous expliquer. Mais qui tout ça ne va pas sans dégâts sur l'environnement, sur l'eau, et puis surtout l'effet de... C'est la surprise générale, alors qu'évidemment, le gouvernement savait ce qu'il faisait. On peut croire, en tout cas, on espère qu'il savait ce qu'il faisait. Alors, il y a actuellement, maintenant, vous le savez sans doute, un moratoire, mais qui suscite une certaine circonspection, qui laisse un certain nombre d'observateurs et de militants tout à fait sur la défensive, disons. Voilà, donc un énorme phénomène. Vous allez voir la taille de ce phénomène aux États-Unis, au Canada, et donc maintenant, c'est une transformation planétaire en matière de ressources et surtout en matière de gaz. Voilà, c'est notre thème du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. Voici une annonce pour ce vendredi 25 février. Notre association, l'Appel des Centres de Bagnolet, et l'association France-Palestine Solidarité Paris Centre organisent une grande soirée de solidarité pour financer l'initiative Un bateau français pour Gaza. Voilà, cette soirée elle aura lieu au théâtre de l'Échangeur. Il y aura des intervenants de militants pour la paix au Proche-Orient, Francis Kahn, Jacques Gaillot et autres, un concert avec le Baroque Théâtre, HK et Saltimbanque, de la restauration. Voilà, donc tout ceci se passe vendredi 25 février à partir de 19h. Pour se restaurer, et la soirée proprement dite à 20h30. Voilà, on vous attend vraiment très très nombreux. Merci, au revoir.
Bonjour Daniel. Hier, mercredi 23 février, dans les locaux de l'inspection académique du Gers, quatre enseignants ont publiquement rendu leurs palmes académiques pour protester contre la politique actuelle de casse de l'éducation nationale. devant une assemblée de parents d'élèves d'un quartier populaire d'Auch, le Garros, qui lutte depuis maintenant 4 semaines pour défendre 3 classes de l'éducation prioritaire menacées de fermeture, ils ont chacun lu un discours pour crier leur colère. Voici un court extrait du discours de l'un d'eux. J'ai aimé mon métier passionnément et je crois avoir donné, comme beaucoup d'autres, le meilleur de moi-même pendant ces années au service de l'école. Moi, la fille d'ouvrier immigré, républicain espagnol, je dois tout à l'école publique et à ses enseignants qui m'ont transmis les valeurs de la République, les valeurs de ce pays qui avait accueilli ma famille et me permettait d'étudier, mais aussi et surtout d'être libre. Et elle conclut par ces mots. Aujourd'hui, je suis triste pour un vieux monsieur de 94 ans, mon père, qui a pleuré de bonheur le jour où je lui ai annoncé ma nomination. Monsieur l'inspecteur, vous ne lirez peut-être pas ce courrier, mais s'il vous parvient, sachez combien l'enfant, la directrice d'école que j'étais, la grand-mère que je suis devenue, a mal à la République, mal à son école. Daniel, que ses enseignants, fierté de l'éducation nationale, fassent des émules. Indignons-nous. C'était Fabienne du Gers.
Bonjour, repéré de Rosé. Et d'ailleurs, ce soir, nous allons phosphorer ensemble autour d'un vaste sujet. L'énergie, les énergies, lesquelles font avancer l'homme. L'idée, faire un inventaire des énergies qui mettent en mouvement notre univers, notre corps, nos sensations, et réfléchir à l'impact qu'elles ont sur notre mode de vie. Nous sommes entourés d'énergie, mais nous en gaspillons tellement qu'il nous en manque. Où pourrait-on en trouver? Que faire pour mieux l'utiliser? Toutes les énergies sont en interaction, et il existe des formules mathématiques pour passer de l'une à l'autre. Mais existe-t-il une énergie universelle? Beaucoup de questions auxquelles nous essaierons de répondre à partir de 19h30 au Canon à pâtes, rue Alsace-Lorraine, à Rosé. À bientôt.
Moi, je l'ai appris, mais j'ai commencé à avoir un article sur le journal, tout petit article, 4 ou 5 lignes, disant que du gaz, il y avait peut-être du gaz dans le coin, que des compagnies américaines allaient arriver et exporter du gaz.
Quand Total nous dit « mais non, mais il n'y a pas de souci, c'est un épiphénomène, mais nous on fera mieux que les Américains », mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est une technologie américaine.
Maintenant que la décision est prise, la concertation peut commencer. Mais on est à peu près dans cette situation-là. On a décidé de forer partout, donc maintenant on peut discuter. Et ben, c'est pas comme ça que ça marche.
Les Américains viennent de confier à l'IPIE une étude d'impact qui doit durer plus de 2 ans sur les conséquences environnementales de l'exploitation des gaz de schiste. Et donc c'est au moment où les États-Unis se rendent compte que c'est peut-être pas une bonne idée que nous nous lançons encore perdus dans cette affaire.
Il faut 20 000 mètres cubes d'eau, c'est-à-dire 6 piscines olympiques pour faire une seule fracturation.
6 piscines olympiques.
6 piscines olympiques pour faire une seule fracturation hydraulique. Et cette eau, elle contient donc 1% de produits chimiques, ce qui fait au final en gros 200 tonnes de produits chimiques que l'on laisse dans le sous-sol.
Une liste du nombre de produits chimiques qui sont utilisés par l'industrie des gaz de schiste. C'est extravagant, on arrive à plus de 900 produits chimiques différents.
Et c'est ce que nous craignons le plus. C'est la pollution de l'eau, des nappes souterraines qui alimentent nos robinets.
Salut, c'est Daniel Mermès et là-bas, j'y suis avec Inès Leroux. Qu'est-ce que cette foreuse fait dans mon jardin?
Flight number 2, arriving from...
Je suis dans une petite chambre, une petite maison en bois, à la frontière des Cévennes et du Larzac, hébergée par une famille de paysans du coin. Voilà, je sors. On est à 900 mètres d'altitude, au fond d'une vallée entourée par des grandes montagnes de pins et de châtaigniers. Jean-Marie, l'agriculteur, l'exploitant ici, il a 35 ans. Il vit avec sa mère, à qui il a repris la ferme, Annie, et sa femme, Fanny. Ils ont un petit garçon et bientôt une petite fille. Et je passe devant les chiens de chasse qui sont dans un enclos et qui ont comme cabane une vieille quatrelle. Il y a aussi une rivière qui traverse la cour. Un ruisseau plutôt. Et il y a un grand tuyau qui plonge dans ce ruisseau et qui arrive directement au robinet de la cuisine et de la douche. C'est l'eau qu'on boit ici. Ici, on est dans un hameau qui s'appelle Croze-Haut. Un peu plus bas, il y a un autre hameau qui s'appelle Croze-Bas. Un peu plus bas encore, le village principal, Saint-Jean-de-Bruel. Et puis, plus loin encore, un autre village qui s'appelle Nantes. Et puis après, des grandes villes comme Millau, Rodez. Et toute cette région, elle est concernée par le permis dit de Nantes qui a été accordé à une entreprise américaine, Schubbar, et une entreprise française, GDF Suez, pour explorer les gaz de schiste dans la région. Donc ici, chez Jean-Marie, on est concerné par la question des gaz de schiste qu'il y a dans le sous-sol.
Inquiétant, hein, le petit bruit là, écoutez. Inquiétant, hein. Ah, c'était joli jusque-là, hein. Hein, Inès, avec sa jolie voix, la nature, la campagne, les paysans, des gens qui vivent, qui ont choisi de vivre là. Écoutez. Ça, c'est le bruit de leur inquiétude. Soudain. Et c'est arrivé d'une façon soudaine. Ils ont appris ça dans le journal, que des permis avaient été accordés pour l'exploration d'extraction du gaz de schiste sous leurs pieds, en dessous de leur terre, à 2000 mètres, 2500 mètres, 3000 mètres. On va explorer, mais ça ne veut pas dire exploiter. Explorer, ça ne veut pas dire exploiter. Oui, oui. Peut-on avoir confiance? Celui qui explore, quand il trouve le filon, il a plutôt tendance à s'empresser d'exploiter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de gaz de schiste? Eh bien, les habitants de ces régions concernées, et il y en a beaucoup en France, et de plus en plus, y compris la région parisienne, se sont très rapidement documentés sur ce qui se passe ailleurs. Au Canada, aux États-Unis, tous ont regardé ce film Gazland qui raconte ce qui se passe donc chez nos voisins de l'autre côté de l'Atlantique, et c'est pas rassurant du tout. Et alors c'était une levée de boucliers. Des gens comme José Bové, dont vous avez reconnu la voix, ou Fabrice Nicolino, des vieux routiers de l'écologie politique, n'ont jamais vu une mobilisation pareille. Effectivement, ce que disait cette auditrice, ça dépasse la tradition écolo, même des écolos intégristes, etc. C'est tout le monde, la gauche, la droite, les élus UMP comme les élus socialistes, tous sont unanimes à dénoncer le procédé et les risques que représenterait l'exploitation de ce gaz de schiste dans ces régions. Alors, je le disais en commençant, il y a un moratoire qui a été une suspension, une commission d'enquête, mais beaucoup sont extrêmement perplexes et ils vont exprimer leur perplexité entre hier et aujourd'hui. Les choses ont déjà bougé et l'inquiétude a nouveau grandi. Il y a 40 ans, apparaissait un journal sur un thème tout à fait nouveau, une quarantaine d'années, qui s'appelait La Gueule Ouverte. C'était le premier journal écolo en France. Et le sous-titre, c'était pour rigoler, bien sûr, c'était Choron qui avait trouvé ce titre, c'était le journal qui annonce la fin du monde. J'espère que nous ne sommes pas l'émission qui annonce la fin du monde. C'est jusqu'à 16h en tout cas. Qu'est-ce que cette foreuse fait dans mon jardin? La 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 la
la la la la la. Qu'est-ce qu'il y a?
T'as pas entendu un truc bizarre?
Si.
Qu'est-ce que c'est?
C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois il y a des fuites, alors ça s'accumule. Puis il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion dit détonation. D'où le bruit que tu as entendu tout à l'heure. Voilà.
Ah. La, 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 la. Dis donc.
Quoi?
Tu sens pas le brûler?
C'est normal. Je t'explique. Il y a une explosion.
Oui.
Et l'agitation moléculaire due à cette explosion...
La quoi?
L'agitation moléculaire...
Ah oui.
...provoque une élévation thermique suffisante pour enflammer les matières environnantes.
Oui, oui.
C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal.
Ah.
Tu comprends?
Oui, oui.
La 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 la
mais,
la 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 la. Qu'est-ce que tu voulais?
Je voulais savoir la, tout l'immeuble, il est en train de brûler, c'est bien ça?
Mais oui, écoute, nous sommes donc en présence d'un incendie.
Ah, un incendie.
C'est normal.
Oui, oui, oui.
Tu comprends?
Je vais chercher un tracteur pour atteler la fourche arrière, pour pouvoir donner à ma vache. Pour les veaux, c'est fait. Ça, c'est le gardien des vaches, Volt, border collie.
Les vaches qui arrivent.
C'est l'appel des vaches.
Qui est-ce qui t'a appris à le faire?
C'est mon père. Vu qu'on est dans une vallée, les antennes de très loin, ça permet de les faire descendre des plus hauts versants des montagnes.
Et ouais. Et voilà. C'est bien, hein, c'est beau, hein, c'est vrai. Alors là, ça, c'est vraiment la France qu'on aime. Hein. Oh là là, la vallée, le gars qui appelle ses vaches, les vaches, le fourrage, la nature... Oh là là, ça c'est... Et puis alors, il va y avoir le gaz de schiste, et ça c'est formidable. C'est naturel. C'est un gaz naturel qui est produit à partir des schistes, vous savez, c'est un genre de minerai, quoi, le schiste, et qui joue un rôle croissant dans l'approvisionnement en gaz naturel aux États-Unis depuis quelques années, le tournant du 21e siècle. Et un analyste, nous dit Wikipédia, là je suis en train de vous lire la fiche Wikipédia, un analyste, on ne sait pas lequel, s'attend à ce que les gaz de schiste constituent la moitié de la production nord-américaine de gaz naturel d'ici à 2020. Vous entendez? La moitié de la production nord-américaine de gaz naturel d'ici à 2020. Le potentiel gazier des schistes intéresse aussi les gouvernements du Canada, d'Europe, d'Asie et d'Australie. Vous avez entendu, ça fait quand même du monde, ça, hein, Asie, Australie, Europe, Canada. Et divers analystes, les revoilà, s'attendent aussi à ce que le gaz de schiste puisse accroître considérablement les approvisionnements énergétiques mondiaux. Selon une étude du Baker Institute of Public Policy de l'université Rice, l'augmentation de la production de gaz de schiste aux États-Unis et au Canada pourrait contribuer à empêcher la Russie, le Qatar et l'Iran de dicter des prix plus élevés pour le gaz qu'ils exportent vers l'Europe. Ces gens qui nous tyrannisent, les Russes, le Qatar, l'Iran, etc., ils garderaient leur gaz parce que nous, on en a sous le pied. Et d'ailleurs, l'administration Obama aux États-Unis estime que l'intensification de l'exploitation des gaz de schiste permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est formidable le gaz de schiste, non? Et voilà, il y a des gens qui sont très inquiets, qui sont même pas contents du tout et qui se sont mobilisés et qui se mobilisent et qui n'en veulent pas, en tout cas qui ont détesté le procédé, l'effet de surprise et puis qui refusent cette opération extrêmement dangereuse et ils vont nous dire pourquoi.
Comment vous l'avez appris, vous qu'il y avait peut-être du gaz de schiste dans vos sous-sols?
Comment... Moi, je l'ai appris, mais j'ai commencé à avoir un article sur le journal, le Midi, pour le citer. tout petit article, 4 ou 5 lignes, disant que du gaz, il y avait peut-être du gaz dans le coin, que des compagnies américaines allaient arriver et exploiter du gaz. Après, on a fait la recherche d'informations en parlant entre collègues agriculteurs, non-agriculteurs, chasseurs, pêcheurs. Et puis voilà, c'est très vite aperçu que effectivement le fameux gaz de schiste existait bien. J'ai un beau-frère qui vit au Québec, que j'ai contacté et qui effectivement m'a dit que les gaz de schiste existaient et pouvaient poser de gros problèmes lors de l'exploitation pour l'eau, pour l'environnement. Et bon, comme vous avez pu le voir ici, l'eau, c'est une denrée présente, mais bon, denrée essentielle. L'eau, on a besoin pour les vaches, on a besoin pour nous. L'été, pour arroser les jardins, c'est un trésor pour nous, l'eau. Et on est arrivé l'année dernière, vers le 20 décembre, à faire une réunion dans la salle des fêtes du village, où étaient présents plus de entre 300 et 350 personnes.
Vous savez où est-ce qu'il pourrait avoir lieu les forages dans votre région ?
On a zéro information, le peu d'informations qu'on a, c'est l'information qu'on a nous-mêmes recueillie, quoi. On n'a pas d'information de personne, ni des préfectures, ni des DRIR, les DREAL. On n'a aucune information. Rien.
Allez ! Tiens, ah, qui vole ! Allez !
Ce temps d'antenne a été retenu et payé par le mouvement agricole solidaire ouvrier en faveur du schiste, le masochiste.
Ici Gaston Laroche, porte-parole du masochiste. Nous avons eu vent des interrogations de la population au sujet de l'exploitation du gaz de schiste. Vous êtes plusieurs à vous poser des questions telles que « qu'est-ce que c'est ça le gaz de schiste ?» Pourquoi, quand, comment et combien de gaz de schiste ? Et qu'est-ce que cette foreuse fait dans ma cour ? En voici d'excellentes interrogations, mais nous répondrons à d'autres questions. Pour ce faire, je cède la parole à un comédien déguisé en chimiste.
Bonjour, sourire à la caméra. Des gens mal intentionnés ont répandu des rumeurs mensongères au sujet du gaz de schiste. Ces gens ont laissé entendre que le forage pourrait gaspiller de l'eau. Ben voyons, de l'eau, on en a trop. Il n'arrête pas de pleuvoir.
Pour faire ça simple, la minute que ça s'engase, ben c'est à nous autres. Fait que ça se pourrait bien qu'on se pointe un matin dans votre cour arrière pour vous forer le trou de gaz. Je peux vous dire que d'expérience que c'est pas mal moins désagréable si vous êtes consentant.
Bon, alors, essayons de comprendre comment tout ça s'est passé, comment on en est arrivé là. On se tourne vers Fabrice Nicolino, qui est journaliste, écologiste, et qui a écrit un certain nombre de bouquins sur ces sujets, enfin sur des sujets d'écologie, et là qui se mobilise à fond contre l'exploitation du gaz de schiste en France et ailleurs.
D'abord, c'est du gaz naturel, qu'on appelle non conventionnel, je vais vous expliquer pourquoi, mais du gaz naturel, c'est-à-dire le même type de gaz que celui qu'on utilise pour se chauffer ou pour faire à manger chez nous en France, c'est le même gaz. Simplement, au lieu d'être dans des cavités, dans de grosses cavités dans lesquelles il suffit de percer pour récupérer le gaz dans sa totalité ou dans sa plus grande partie, comme on le fait avec le gaz conventionnel, eh bien, il s'agit d'un gaz qui est piégé, qui est stocké dans des couches sédimentaires profondes, argileuses, des schistes, à peu près, disons, à 2000 mètres de profondeur. C'est beaucoup quand même, ça peut même aller jusqu'à 5000 mètres de profondeur. Et ce gaz est piégé depuis très longtemps dans des toutes petites poches et des espèces de gouttes de gaz. Non, j'exagère un petit peu, mais en tout cas, c'est sous cette forme-là. Et ce gaz, il faut aller le récupérer, ce qui est évidemment beaucoup plus difficile que dans des cavités où il se trouve par milliers ou millions de mètres cubes. Comment on fait pour aller récupérer ce gaz ? Il y a une technique qui est utilisée très très largement, qui est au point, qu'on appelle la technique de fracturation hydraulique. C'est relativement simple à expliquer, du moins. On utilise une eau à très très forte pression, plusieurs centaines de bars, donc une ultra haute pression, et on ajoute à cette eau des produits chimiques en très grande quantité.
Pour fractionner la roche.
C'est pour faire exploser la roche, littéralement, à 2000 mètres de profondeur. On envoie donc des tuyaux, on perce la roche, la terre, le sol, puis la roche mère, et on balance des tuyaux, de la tuyauterie, jusqu'à 2000, 3000 mètres de profondeur, ce qui n'a rien d'extravagant pour les ingénieurs. Et dans cette tuyauterie, et au niveau des couches schisteuses qui contiennent des gaz, on envoie cette eau pressurisée, surchargée de produits chimiques qui ont tous pour action de dissoudre ou de faire exploser la roche. Parce que c'est ça, disons, le problème technique majeur, c'est pas tellement d'arriver au schiste à 2000 mètres de profondeur, mais c'est surtout le faire exploser de manière à faire remonter ensuite les bulles de gaz. C'est ça l'affaire. Et avec cette fracturation hydraulique qui est désormais au point, eh bien, sur fond de crise pétrolière et gazière historique, on va le dire, on s'est dit que peut-être on pouvait atteindre ces ressources qui jusque-là ne nous intéressaient pas. Mais il ne faut pas croire que ce sont des ressources dont on ignorait l'existence. En fait, on sait qu'il existe du gaz piégé dans les schistes depuis les débuts de l'industrie du pétrole et du gaz. Je dis industrie du pétrole et du gaz parce qu'il y a aussi bien du gaz de schiste que du pétrole de schiste. En France, par exemple, il y a du pétrole dans les schistes du bassin parisien et il y a du gaz, très vraisemblablement, d'une zone qui va, on va dire, de Montélimar jusqu'à Montpellier, qui inclut d'ailleurs le Larzac, les Cévennes. Donc, il y a du pétrole d'un côté et il y a du gaz de l'autre. Et c'est la même structure géologique, c'est-à-dire des couches sédimentaires profondes.
Je suis Guillaume Vermorel, ingénieur de formation et enseignant à l'éducation nationale, et je suis aussi spéléologue en Ardèche. Je suis président du comité spéléo de l'Ardèche, et donc du coup on connaît le sous-sol, enfin on n'en connaît que les 200 ou 250 premiers mètres, c'est-à-dire la partie où on peut descendre humainement. Alors ici on est sur le forage dit historique de Villeneuve-de-Berre, qui a été fait en 1959. C'est un forage fait par le BRGM, le Bureau de Recherche Géologique et Minier, et il a permis de remonter 2800 mètres de profondeur jusqu'au socle granitique. Et ça a permis de connaître l'alternance, la superposition de ces couches géologiques. Et grâce à ça, on connaît vraiment bien le sous-sol ardéchois au niveau de Villeneuve-de-Berre. Et c'est une des raisons qui pousse l'entreprise Schubar Energy et son partenaire français GDF Suez à venir forer à Villeneuve-de-Berre, parce qu'ils connaissent bien le sous-sol.
Donc là, on est au milieu, ça s'appelle comment, des paysages comme ça ?
Ça, c'est de la garrigue ardéchoise. On est au milieu de la garrigue, à proximité du village de Villeneuve. Donc on voit des buis, des cades, quelques chênes verts. Ça, c'est le reste du forage, le haut du tubage métallique du forage.
D'accord.
Donc ça descend, il y a un trou qui descend à 2800 mètres de profondeur à la verticale, en dessous de nos pieds.
Et ça avait été fait il y a combien de temps, vous
dites ? En 1960, donc il y a une cinquantaine d'années.
Et finalement, à cette époque, on avait découvert quoi ?
Et à cette époque, on a découvert plusieurs couches, notamment une qui contient du gaz.
Le gaz de schiste.
Le fameux gaz de schiste.
Donc il y a 60 ans, on découvre l'existence de gaz de schiste dans le sous-sol ardéchois, mais on ne sait pas comment l'exploiter, on ne sait pas comment l'extraire du sol, c'est ça ?
Voilà, on ne sait pas comment l'extraire parce que le problème du schiste et des gaz de schiste, c'est qu'ils se retrouvent répartis de manière très diffuse dans cette roche. On va être obligé donc de forer dans cette roche, faire un forage vertical et ensuite horizontal. On va être obligé de broyer cette roche, on va faire une fracturation hydraulique. On remplit le forage de 95% d'eau, 4% de sable et 1% de produits chimiques. On met le tout en pression, on met 600 bars de pression, et en broyant cette roche, on va interconnecter toutes les petites bulles de gaz. On va ensuite l'extraire et le réinjecter sur le réseau de gaz français.
Et le sol, après, il est devenu quoi ?
Il apprécie moyennement parce qu'on broie les roches, mais surtout on injecte des produits chimiques. Et le problème, c'est que 50% de ces produits chimiques qui restent dans le sous-sol, on n'arrive pas à les extraire. Et donc 1% de 20 000 mètres cubes d'eau, il faut 20 000 mètres cubes d'eau, c'est-à-dire 6 piscines olympiques pour faire une seule fracturation.
6 piscines olympiques.
6 piscines olympiques pour faire une seule fracturation hydraulique. On laisse donc la moitié de cette eau ou un peu plus au fond du forage. Et cette eau, elle contient donc 1% de produits chimiques, ce qui fait au final en gros 200 tonnes de produits chimiques que l'on laisse dans le sous-sol. Et le problème, c'est que comme la roche est broyée, on risque de retrouver, il y a une très forte probabilité de retrouver ces produits chimiques dans les aquifères, c'est-à-dire les nappes phréatiques que l'on pompe, que l'on a au final dans nos robinets.
Gasland.
Do you want me to go through all of them, sir?
2010.
Alors, vous souhaitez que je lise tous?
Mike John, représentant de Chesapeake Energy.
Pour commencer, on a de l'acide chlorhydrique qui dissout certaines boues présentes dans les puits.
We would have a need for a breaker that would take away some of the viscosity from our fluid that we would.
Il y a aussi un agent antibactérien, l'aldéhyde glutarique, pour diminuer la viscosité des liquides. On utilise le persulfate d'ammonium. On utilise un inhibiteur de corrosion pour protéger les colonnes de tubage et les gazoducs.
Testing my site here, it's dimethyl formaldehyde.
formaldéhyde.
C'est du formaldéhyde de diméthyle. Comme agent de réticulation, on utilise du sel de bore. Comme réducteur de friction, un distillat de pétrole. Un agent de neutralisation, l'acide citrique. Le chlorure de potassium en guise d'absorbeur d'oxygène.
Fabrice Nicolino, comment tout cela a commencé et d'où ça vient? Et j'ai l'impression que ça commence aux États-Unis.
Ah, ça c'est sûr, ça commence aux États-Unis. Puisque c'est vrai que le point de départ se trouve là-bas. L'épicentre de cette affaire, qui est une affaire mondiale, c'est Dallas aux États-Unis. C'est le Texas, hein. C'est l'industrie pétrolière du Texas. Et vous savez comme moi que depuis quelque temps, on se pose des questions à propos du pétrole comme du gaz. Les réserves sont-elles aussi importantes qu'on le dit? Est-ce que des pays comme l'Arabie Saoudite, par exemple, entre autres, ne ment pas sur ces réserves pour maintenir un rôle géostratégique qui ne pourrait plus être le sien? D'autre part, il y a ce fameux pic de Hubert, c'était un géologue qui, à la fin des années 40, début des années 50, c'est un géologue américain, il a tout simplement énoncé une théorie qui aujourd'hui paraît aller de soi, c'est que l'histoire de l'extraction du pétrole avait une forme de cloche, c'est-à-dire que dans un premier temps, on extrayait de plus en plus de pétrole des entrailles de la Terre, c'était très facile, il y avait du pétrole partout, il suffisait finalement de creuser des trous et d'aller le chercher, puis ensuite, ça se stabilisait, c'était une sorte de plateau, et ensuite, fatalement, il y avait un début de déclin de la production, parce qu'il y avait davantage de pétrole extrait que de pétrole qu'on pourrait extraire à l'avenir de la Terre. Et donc, on a employé cette expression de pic de Hubert, du nom de Hubert, pour signifier que tout a une fin, y compris l'extraction de pétrole, et qu'il arriverait un moment fatalement dans l'histoire du pétrole où il ne serait plus abondant comme il avait été, où il serait plus difficile à exploiter, où il serait plus coûteux à exploiter. Alors, il y a des discussions de spécialistes, mais qui sont très intéressantes sur cette question, puisque aujourd'hui, beaucoup d'excellents spécialistes, y compris des géologues, considèrent qu'on est très proche du pic de Hubert, ou peut-être qu'on l'a déjà dépassé. C'est-à-dire que peut-être, malgré les déclarations tonitruantes de tel ou tel, peut-être, au fond, qu'on a extrait plus de pétrole qu'on ne pourra jamais en retirer de la Terre. Et ça, évidemment, ça a une influence directe, enfin directe, pas immédiate, mais en tout cas directe, sur le coût de l'énergie, le coût du pétrole et le coût du gaz, car c'est corrélé, c'est un peu la même histoire. Tout ça pour vous dire que plus ça devient difficile, plus il y a de tensions autour du prix de l'énergie, évidemment, et plus les pétroliers se posent des questions. C'est dans ce contexte-là que l'industrie pétrolière du Texas s'est posé des questions, disons, au tournant du siècle, au tout début du 21e siècle. Et finalement, on a redécouvert ce qu'on savait depuis un siècle et demi, à savoir qu'il y a du gaz et du pétrole dans les schistes. Mais pas un petit peu, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un ordre de grandeur, hein. Il n'y a aucune estimation fiable définitive sur la question. Mais l'estimation qui circule le plus dans les milieux pétroliers, c'est qu'il pourrait y avoir dans le monde 4 fois plus, écoutez bien, 4 fois plus de gaz, de schiste sur Terre que de gaz conventionnel. Si ces estimations sont vraies, vous comprenez bien que c'est une révolution énergétique. Le pic de Hubert va être retardé de plusieurs dizaines d'années, parce que ça vaut pour le pétrole, et bien entendu, la carte de l'énergie est redistribuée à l'échelle de toute la planète. Et pour en revenir au point de départ, c'est-à-dire l'industrie pétrolière du Texas, eh bien, au tournant du siècle, cette industrie s'est dit, bon Dieu, il y a trop d'incertitudes pour nous, il faut relancer notre machine, notre vaste machine à produire du gaz et du pétrole. On va s'attaquer au gaz de schiste et au pétrole de schiste, car les prix du pétrole et du gaz conventionnel ayant monté, ça devient potentiellement rentable.
Et aujourd'hui, aux États-Unis, on exploite le gaz de schiste, on distribue
massivement, massivement. Ah. Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est absolument certain, ça n'est discuté par personne. Il y a 500 000 puits de forage en activité aux États-Unis, de gaz de schiste, simplement pour le gaz de schiste.
Donc vous êtes en train de me dire qu'il y a 500 000 d'Eric aussi
sur le sol.
Ça veut dire que le paysage américain a complètement changé en quelques années.
Pas tout le pays, mais disons, je crois qu'il y a du gaz de schiste, je dis ça de mémoire, il est exploité actuellement dans 17 États des États-Unis. Les États-Unis, c'est très vaste. Et oui, c'est une révolution énergétique, c'est une révolution du paysage, c'est une atteinte probablement irréversible à la qualité des nappes phréatiques, parce qu'il faut bien comprendre ce qui se passe avec cette fracturation hydraulique. Quand vous injectez de l'eau, il faut d'abord beaucoup d'eau. Vous en avez sur place ou vous la faites venir par des camions-citernes. Aux États-Unis, c'est des camions-citernes. Vous avez donc des norias, des milliers de camions-citernes qui apportent des quantités phénoménales d'eau, un forage, 15 à 20 millions de litres d'eau. Un forage, 15 à 20 millions de litres d'eau. Et on peut fracturer au même endroit plusieurs fois. Donc, c'est des quantités d'eau phénoménales.
On la récupère.
Vraisemblablement, on peut en récupérer, on va dire, la moitié. C'est pas sûr, mais ça tourne autour de ça. Autrement dit, il y a une partie considérable de cette eau qui reste dans le sous-sol, dans un sous-sol qui a été fracturé, explosé par le traitement par fracturation hydraulique, la pression de l'eau chargée de produits chimiques, le sol est explosé, c'est des mini-séismes. Il faut bien comprendre, je pèse le sens de mes paroles, il s'agit de mini-séismes qu'on provoque volontairement dans le sous-sol pour fracturer les schistes et pour récupérer le gaz. Donc ce sont des mini-séismes qui pourraient nous garantir que ces mini-séismes n'ouvrent pas de nouvelles lignes, de nouvelles fractures dans le sous-sol qui atteindront un moment ou un autre les nappes phréatiques. Personne, bien entendu, et c'est tellement vrai que dans de nombreux cas aux États-Unis et au Québec, puisque on est en train de faire la même chose dans la vallée du Saint-Laurent. Dans de nombreux cas, on s'est rendu compte qu'il y avait des fuites graves et des atteintes graves à la qualité des nappes phréatiques. Car, je vous le rappelle, dans l'eau pressurisée qui est balancée à 2000 mètres de profondeur, il y a
des produits chimiques.
Des produits chimiques, mais pas n'importe quel produit chimique. Si vous voulez, c'est le pire. Je pèse aussi le sens de mes propos. C'est le pire de la chimie industrielle.
Cooking with gas. Gas.
Cooking with gas. Gas.
We all cook better when we're cooking with gas.
Gas is so hot it's not on when it's off. It's the only way to cook. That's what I was taught. Now here's a fact you should have to know to pass. 9 out of 10 chefs only cook with gas. Why is that, you say? Can I cook my way? The benefits we have to tell will really make your day. So listen, class, 'cause we're gonna go fast. Here are all the reasons you should cook with gas.
I cook with gas 'cause I'm in control. The flame could be adjusted for the perfect shrimp creole. The burn is not on when I think it's not. I can simmer, brown, or boil in the same metal pot.
Cooking with gas. Cooking with gas.
We all cook better when we're cooking with gas. Gas is so hot, it's not on when it's off. It's the only way to cook. That's what we were taught.
I cook with gas 'cause the cost is much less than electricity. Do you wanna take a guess? Well, it's 3 times less in the east or west. So remember those figures when it's time to take a test. Gas.
It's cooler.
We're cooking with gas.
It's precise.
We're cooking with gas.
It's cleaner.
We're cooking with gas. It's cheaper.
Cooking with gas.
Mairie de Nantes.
Ah oui, c'est bon, ouais, elle est là, je la vois, elle était dehors.
Et attends, on va raconter.
Bonjour. Alors, je suis Jean-Philippe, moi je suis adjoint.
Donc vous êtes l'adjoint au maire de M. Saquet.
Voilà.
À la mairie de Nantes.
Voilà, à la mairie de Nantes, en Aveyron, hein, ne pas confondre Nantes en Aveyron et Nantes en Loire-Atlantique, bien sûr. Hein.
Alors ça se mobilise en Aveyron, en Ardèche, partout. Et je vous rappelle la manifestation massive prévue pour ce samedi 26 février à Villeneuve-de-Berg à 14h. Nos gazaranes, mobilisation contre le gaz de schiste en Ardèche. Je l'ai dit, on l'a précisé, ce n'est pas seulement en Ardèche, il y a aussi l'Aveyron, il y a aussi la région parisienne. Le gaz, c'est dans le sud, mais le pétrole de schiste, c'est dans la région parisienne. Donc, vous avez compris, on est avec Jean-Philippe, l'adjoint au maire de cette petite ville de Nantes en Aveyron.
Nantes, c'est une ville de 1000 habitants, une commune de 1000 habitants. Mmh. Et le permis qui est passé dans la région porte justement le nom de cette ville. Ça s'appelle le permis de Nantes. Oui.
Et donc on a appris ça de façon un peu surprenante par la presse au mois d'avril, début avril. Tant et si bien qu'on a cru à un poisson d'avril, un mauvais poisson. C'était, il me semble, Nantes au cœur de l'exploration pétrolière. On aurait trouvé du gaz de schiste à Nantes. Enfin, c'était, comment dire, libellé sous une forme un peu humoristique. Et c'est vrai que comme c'était la période des poissons d'avril, on a un peu pensé que ça pouvait être un poisson d'avril, voilà. Mais très rapidement, nous avons su que c'était malheureusement des permis réels qui avaient été accordés. Le maire s'est renseigné donc tout de suite après la parution de cet article auprès des services de la préfecture. Bon, ils n'étaient pas au courant, mais ils lui ont dit qu'ils allaient se renseigner. Donc, incidemment, on a su que c'était effectivement inscrit au journal officiel. On s'est renseigné pour savoir en quoi consistaient ces méthodes d'exploitation, parce qu'on ne connaissait pas du tout. Et effectivement, quand on s'est renseigné, quand on est allé notamment sur les sites internet, on s'est rendu compte que c'était quand même des techniques extrêmement polluantes et qui causaient de nombreux désagréments en matière de consommation d'eau, hein, d'eau potable, et également en matière de pollution des sous-sols, puisque apparemment il y aurait plus de 500 molécules chimiques qui seraient donc diffusées de très grandes profondeurs, entre 2000 et 2500 mètres. Et donc, on a trouvé, malheureusement, beaucoup de matière à stupéfaction. Hein.
Cheese. Gasland.
Cheese.
2010.
Jeff and Rhonda Locker. They've been living here for at least 30 years.
Jeff et Rhonda Locker habitent ici depuis plus de 30 ans.
But at some point in the late 90s, there was a gas company re-stimulating a well.
Mais à la fin des années 90, une compagnie de gaz a réouvert un gisement derrière chez eux.
Rhonda was out doing the wash. And the wash went black.
Rhonda est allée laver le linge et le linge est ressorti tout noir. C'est là qu'ils se sont dit que leur eau avait un problème. Les lockers ont menacé la compagnie de gaz de poursuites judiciaires. Ils ont accepté un arrangement d'un montant de 21 000 $ pour l'installation d'un système de filtration par osmose inversée.
This is our system. It pumps out of there, it pumps through the softener, it pumps through there and it fills this 500 gallon tank.
Voilà la machine, voilà le filtre. L'eau est pompée, passe par là et puis par là, il y a une centrifugeuse et puis elle atterrit dans ce réservoir de 500 gallons. On a bu cette eau pendant quelques années.
But 4.5 years ago, Rhonda got really sick with a
Mais il y a 4 ans et demi, Rhonda est tombée très malade avec une grave neuropathie qui l'a fait beaucoup souffrir.
And she's been through spinal taps and everything to try to find a cause.
Des douleurs dans les os, elle a même dû subir plusieurs ponctions lombaires pour savoir d'où ça venait.
Jeff and Rhonda Locker found out that a reverse osmosis unit won't filter out glycol ethers.
Et c'est en cherchant que Jeff s'est aperçu que le système d'osmose inversée ne filtrait pas les éthers de glycol.
Alors Fabrice Nicolino, les compagnies qui opèrent, les grandes compagnies multinationales, internationales qui opèrent sur ces sites, quelles sont leurs responsabilités? Comment se défendent-ils face aux critiques? Je pense à ce film, ouais. Gasland, ouais. Dont tous les auditeurs nous ont parlé.
Ouais, ouais. Oui, ben d'abord, ils se défendent mal. Hein. Je veux dire, vous me parlez de Gasland. Le film a fait un triomphe aux États-Unis, au Québec, en France. Il a été vu déjà sur le net ou bien dans des réunions publiques par des dizaines de milliers de gens. Donc, c'est un film très impressionnant. Si vous n'avez pas vu, regardez-le. C'est vraiment très, très surprenant puisqu'on y voit ce qu'on retient. C'est anecdotique, mais en même temps, quelle anecdote! On y voit un habitant tout près de Forage, au gaz de schiste, ouvrir son robinet. On voit un liquide qui sort, on pense que c'est de l'eau, mais le mec approche son briquet et le robinet prend feu. Le robinet prend feu. C'est-à-dire que c'est une anecdote, certes, mais elle est très, très saisissante. On voit des tas de gens malades, des gosses asthmatiques. On voit quelque chose d'absolument hallucinant, alors, c'est-à-dire un pays complètement soumis à la loi du fric. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas la peine de tourner autour du pot. Si les ingénieurs, si vous voulez, font leur travail. Oui, disons-le franchement, les ingénieurs, les géologues font leur travail. On leur demande de trouver des ressources énergétiques, eh bien, ils trouvent des ressources énergétiques. On leur demande de forer pour aller récupérer ces ressources énergétiques, ils forent. Ce n'est pas leur affaire. Il n'y a pas de morale dans cette histoire. L'industrie pétrolière, elle est amorale. Elle se fout totalement de la morale commune. Elle se fout de savoir si c'est bien ou si c'est mal. Son être profond, c'est d'aller chercher du pétrole et du gaz où qu'il soit. Un tout petit rappel, vous savez comme moi, aussi bien que moi et peut-être mieux que moi, qu'une entreprise comme Shell, par exemple, a construit une partie de sa richesse sur la dévastation totale du delta du Niger au Nigeria. Ils n'en ont rien à foutre. Disons-le franchement, ils n'en ont rien à foutre. Ça ne les concerne pas. Mmh. Alors, ils se défendent mal par rapport à Gasland. Leur argumentation principale, c'est très simple. Celle qui a entraîné l'accord de l'administration Bush, c'est, comment dire, l'indépendance énergétique. Voilà. Ouais. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et il faut reconnaître que c'est vrai. Que c'est vrai. Moi, je dis sans aucune hésitation qu'il y a une part de vérité très évidente, très essentielle dans cette histoire, parce qu'un pays, quel qu'il soit, a peur des convulsions qui pourraient le menacer dans son approvisionnement énergétique. Beaucoup de pays du Nord sont extrêmement dépendants de pays étrangers et parfois instables pour l'approvisionnement de tous les jours. C'est un problème, et un problème qui n'est pas seulement un problème théorique, rhétorique, c'est aussi un problème fondamental pour n'importe quel État digne de ce nom. En France, par exemple, d'où vient notre gaz ? On produit 1% de notre gaz. Donc 99% du gaz qui est consommé en France, et Dieu sait qu'on en consomme, ça vient d'ailleurs. Ça vient d'où ? Ça vient de pays tranquilles pour nous et pour l'instant, comme la Norvège ou les Pays-Bas, mais ça vient de pays aussi beaucoup plus problématiques, comme la Russie de M. Poutine, qui, rappelez-vous, avait fermé le robinet à gaz pour essayer de contraindre l'Ukraine à passer sous ses fourches codines. Ça vient de l'Algérie, M. Bouteflika. Hein. Je ne vous fais pas de dessin, ce sont des pays problématiques. Si vous voulez, il faut comprendre que Donc c'est l'intérêt bien compris et qu'on peut entendre des pays industrialisés de vouloir avoir accès à une ressource énergétique autochtone, chez eux, à la maison, chez nous si vous voulez. Ça paraît évident. Simplement, ce qui déconne complètement, c'est d'une part donc, la dévastation de territoires entiers, c'est des risques de pollution définitive ou quasi définitive sur le très long terme, avec des produits chimiques dont on ne connaît même pas les effets sur les êtres humains, donc c'est quand même extraordinairement grave. Et puis au-delà de ça, si vous voulez, ce qui est très frappant, c'est que les industriels qui ont lancé cette aventure, car c'est une aventure, ont simplement oublié de nous dire qu'est-ce que ça allait nous coûter sur le plan du dérèglement climatique. Cette course folle en direction des gaz de schiste et des pétroles de schiste, c'est une certitude, va relancer massivement les émissions de gaz à effet de serre.
De quelle façon ?
Ben, d'abord, les industriels, eux, ils disent le contraire pour l'instant, mais sans preuve. C'est merveilleux. Ils ont commencé il y a 8 ou 9 ans à aller chercher le gaz de schiste, et comme l'opposition ne fait que commencer, en 8 ou 9 ans, malgré leurs moyens immenses, ils n'ont pas encore réussi à produire des études satisfaisantes. Et ce qu'ils disent, mais c'est de la pure propagande, je répète, c'est de la pure propagande. Ils disent que le gaz de schiste émet moins de gaz à effet de serre que le charbon. Alors, c'est faux. On manque encore d'enquête, mais il y a deux éléments d'enquête qui sont très sérieux. Il y a un travail qui a été fait par un professeur émérite de l'université de Cornell aux États-Unis, et il y a une étude de l'université de Manchester. D'après ces travaux, eh bien, si on prend la totalité du cycle de vie, je vous passe les détails parce que ce serait ennuyeux, mais si on prend en compte la totalité du cycle de vie des gaz de schiste, c'est très vraisemblablement aussi polluant, c'est aussi réchauffant que le charbon, peut-être davantage, et ça ruine totalement l'un des rares arguments positifs utilisés par l'industrie au moment où je vous parle.
Pourquoi ces inquiétudes? Pourquoi cette méfiance qui est là?
France Info.
C'est une méconnaissance? C'est un manque d'expérience? Qu'est-ce que c'est?
14 janvier 2011.
Je crois qu'avec l'Internet, le problème, c'est que les gens ont eu accès à des images qui nous viennent des États-Unis.
Charles Lamiro.
Et qui ne sont pas transposables en France.
Géologue attaché au ministère de l'Économie.
Pourquoi?
Notre réglementation est trop stricte. C'est impossible. Les images que l'on peut voir sur Internet proviennent de régions où le propriétaire du sol est propriétaire du sous-sol et de toutes les substances qu'elles contiennent. Alors effectivement, le propriétaire du sol veut, lui, s'assurer des revenus le plus rapidement possible et négocie avec les compagnies qui lui assureront ces revenus le plus rapidement possible. Ce qui, en France, est totalement impossible puisque les ressources pétrolières qui sont inscrites à l'article 2 du Code minier sont propriété de l'État. C'est des substances concessibles.
Donc vous nous dites, oui, l'Amérique du Nord n'a rien à voir avec la situation française.
Non, absolument pas.
Et le fait que l'État soit propriétaire de ce qu'il y a dans le sous-sol est finalement plutôt pour le bien de l'environnement.
Voilà, c'est une garantie pour les populations.
Ce qui inquiète plutôt les populations finalement parce que c'est passé par la voie officielle et pas forcément par le contact direct entre des industriels et des propriétaires terriens. Quoi.
Oui, tout à fait.
Michel Rivasi, député européen vert pour le quart sud-est de la France.
Lorsqu'on regarde les évaluations, ça va représenter combien? Eh bien, on s'aperçoit, enfin moi ça c'est les évaluations qu'on m'a données au niveau de l'Europe, ça représente entre 3 et 4% de gaz. Vous voyez, la proportion par rapport à l'ensemble du gaz conventionnel. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Là, pour récupérer 4% de notre consommation en France sur uniquement les gaz. Donc moi je dis, quand on me parle d'indépendance énergétique, c'est pas vrai. Ça représente très peu par rapport, vous voyez, à l'impact environnemental que ça peut occasionner. C'est comment on fait passer de l'intérêt privé, vous voyez, au détriment de l'intérêt collectif. Comment on fait passer l'intérêt privé, les profits qui vont derrière, par rapport à des risques de contamination des nappes phréatiques qui sont pour des générations et des générations. Regardez aux États-Unis ce qui s'est passé. Depuis 10 ans, les industriels sont allés récupérer des terrains pour faire des forages. Eh bien, c'est suite à la plaine de riverains, parce qu'ils avaient une eau contaminée, parce que leur cheptel était malade, parce qu'eux-mêmes étaient malades, qu'ils ont saisi le ministère de l'Environnement américain. Et l'EPA, qui est le ministère de l'Environnement américain, va finir son étude d'impact en 2012, alors qu'ils ont déjà pollué l'environnement. Alors que la ville de New York demande un moratoire en disant « il faut arrêter ces forages parce qu'on n'aura même plus une eau potable pour la ville ». Non mais vous vous rendez compte? Alors quand Total nous dit « mais non, mais il n'y a pas de souci, c'est un épiphénomène, mais nous on fera mieux que les Américains », mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est une technologie américaine. En plus,
c'est que les entreprises françaises sont incapables de faire de la fracturation hydraulique par elles-mêmes. Et donc, pour exploiter le gaz de schiste, elles s'associent avec des entreprises américaines.
Exactement. Total ne peut pas le faire en tant que tel. GDF, Suez non plus. Donc, ils se sont adossés à des entreprises américaines qui ont la technologie. Et je vois mal comment, en ayant cette technologie, parce qu'il fonctionne depuis 8 à 10 ans aux États-Unis, au Canada, ils vont la changer radicalement. Pour la France. Mais tel que je le vois à l'heure actuelle, il y a une mobilisation. Par exemple, à Villeneuve-de-Berre, à Montélimar, les salles sont complètement pleines. Et ça, ça vient du fait que le code minier européen est différent du code minier américain. Aux États-Unis, vous êtes propriétaire du sol, vous êtes aussi propriétaire du sous-sol. Donc quand les entreprises viennent, elles vous disent, voilà, j'avance de l'argent, c'est 100 000 euros ou 200 000 euros le forage. Et suivant la condition des gens, vous voyez, les propriétaires, eh bien, ils se font acheter. Bon. Mais bon, ils récupèrent de l'argent concernant le fait de faire des forages. Nous, le code minier européen, on est propriétaire du sol, mais pas du sous-sol, c'est l'État. Donc les gens se sont dit, mais si c'est l'État, et que dans mon terrain, d'après les carottages qui ont été faits dans les années 50, vous savez, à l'époque où on recherchait du pétrole, si jamais il y a du gaz de schiste, eh bien ils peuvent m'exproprier.
Nos gazaranes, donc, la manif de samedi 26 février à Villeneuve-de-Berge à 14h. Rendez-vous au rond-point des pommiers sur la nationale 102. On continuera demain. Deuxième volet de ce reportage d'Inès Leroux. Merci à Jean-Marie Joanna Beria et à sa famille, Guillaume Vermorel, Jean-Philippe, Michel Rivasi, Fabrice Nicolino, qui sort un bouquin le 16 mars prochain, Qui a tué l'écologie? On a quelques idées pour ce qui nous concerne. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires. Même jeu sur là-bas.org, là-bas.org, réécoute possible et message attendu. À la technique aujourd'hui, Cédric Lalanne et Arnaud Chapat, Coyen Nguyen et Franck Adereron. Réaliser cette émission assistée d'Agnès Lebotte et Marina Touillez attend vos messages sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37. Vous avez entendu, il est 16h sur France Inter. On se retrouve donc à 15h demain pour la base. J'y suis. Qu'est-ce que cette foreuse fait dans mon jardin? Je vous laisse pour les infos avec Maxime Debs. Salut.
Ce n'est pas moi, c'est l'autre dans un entretien téléphonique hallucinant à la télévision libyenne cet après-midi. Muammar Kadhafi accuse Ben Laden de manipuler les Libyens qui sont, selon lui, drogués par des agents de l'étranger. Il faut prendre les armes aux insurgés, dit-il, dans une allocution qui oscille entre ridicule et cynisme. Kadhafi a également présenté cet après-midi ses condoléances aux enfants de la Libye morts dans les violences qui règnent dans le pays. Mais ce ne sera pas suffisant, c'est le moins qu'on puisse dire pour les manifestants qui continuent de s'approcher de la capitale et bien décidés à faire tomber ce dictateur qui s'accroche au pouvoir maintenant depuis 42 ans. Plusieurs villes sont tombées, dont l'une aujourd'hui à une centaine de kilomètres de Tripoli, et des affrontements ont eu lieu quasiment aux portes de la ville en ce moment où des tirs nourris ont été entendus. La France, elle, a demandé cet après-midi qu'une mission indépendante soit envoyée en Libye pour enquêter sur de possibles crimes contre l'humanité. Pour tout savoir sur la Libye, je vous rappelle que vous pouvez à tout moment vous référer au dossier spécial en ligne sur le site internet de France Inter, franceinter.com. Julian Assange, lui, va faire appel. La justice britannique a donné cet après-midi le feu vert à son extradition vers la Suède, où le fondateur de Wikileaks, je vous le rappelle, est notamment poursuivi pour viol. Une décision, Franck Madon, qui est finalement sans surprise.
La décision n'a finalement pas surpris grand monde, à commencer par Julian Assange, impassible sur le banc des prévenus. Le juge a rejeté un par un tous les arguments de la défense. D'après lui, Julian Assange ne s'est pas rendu disponible pour les interrogatoires en Suède. Le mandat d'arrêt européen était valable, la procédure en Suède également. Il n'y a pas de risque réel d'extradition vers les États-Unis, où le fondateur de Wikileaks est devenu un ennemi public. Et enfin, point important, les faits reprochés à Assange sont bien des motifs d'extradition. L'Australien est accusé d'avoir imposé à l'une des plaignantes soignante plongée dans le sommeil, un rapport sexuel sans préservatif, c'est le fait le plus grave, et d'après le juge, il s'agit bien d'un viol. D'une certaine manière, le marathon judiciaire n'en est qu'à ses débuts, la défense fait appel et d'autres recours sont encore possibles par la suite. En attendant un nouveau procès, le fondateur de Wikileaks restera en liberté, sous contrôle judiciaire, on n'en connaît pas encore les modalités, mais au moins Assange évite la casse prison. Londres, Franck Medvon, France Inter.
Air France et Airbus vont-ils être mis en examen et donc poursuivis dans l'enquête sur le crash du vol Rio-Paris en juin 2009? C'est tout à fait possible. La compagnie française et l'avionneur européen ont tous deux été convoqués aujourd'hui par des juges d'instruction à la date du 17 mars prochain. 228 personnes avaient péri dans la catastrophe survenue alors que l'appareil survolait l'océan Atlantique. Voilà, et notez qu'en tennis, Marion Bartoli s'est qualifiée cet après-midi pour le tournoi de Doha. Pour les demi-finales du tournoi de Doha, la Française a battu en quart la chinoise Peng Shuai 6-2, 6-2.
Demain, à partir de 23h,
à l'occasion de la 36e cérémonie des Césars,
My name is Carlos.
C'est pas vrai, mais c'est pas vrai.
Ça, c'est de la musique.
France Inter s'installe au Phuket pour une soirée spéciale.
Une soirée spéciale pour les Césars.
Laure Adler.
Avec la complicité d'Eva Bétan.
Oui, et puis des invités, et puis pas mal de choses.
Des grands cinéastes, des invités, des commentaires acides ou acerbes, mais aussi festifs.
La 36e cérémonie des Césars,
en direct du Phuket,
à suivre sur France Inter, demain à partir de 23h.
Amusez-vous aussi à voter pour votre propre sélection et retrouvez tous les résultats de la compétition sur la page César de notre site franceinter.com.
France Inter. France Inter.
La différence.
Il est 16h passé de 4 minutes et la suite des programmes sur France Inter, c'est avec Frédéric Lodéon pour Carrefour de l'Odéon.
Et bonjour Maxime.
Bonjour.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Oui, il y a un méchant virus qui rôde, alors l'actualité change un petit peu, puisque Myung-Woon Chung, le fameux chef d'orchestre de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, qui devait assurer demain le concert Salle Pleyel, il est souffrant et il va être remplacé par un jeune tout à fait talentueux, sympathique en plus, Fabien Gabel, qui nous a donné déjà des gages de sa grande capacité. Et il est arrivé dans ce concert, il a pris au pied levé, si j'ose dire, plutôt à main levée, dans le cas d'un chef d'orchestre, avec toujours au programme Le Réveil des Oiseaux de Messiaen, de Paul Ducas, une fanfare, et puis le poème dansé pour orchestre de la Pairie, et puis la valse de Maurice Ravel, et le concerto pour la main gauche de Maurice Ravel. Pour l'instant, on compte toujours sur Pierre-Laurent Aymard, et il va nous donner ce chef-d'œuvre un peu sombre. Il faut dire qu'il a été dédié à un pianiste qui avait perdu, lui, carrément un bras pendant la guerre, Wittgenstein, et c'est une merveille, parce qu'on entend même dans la cadence là, qui ouvre l'émission, c'est-à-dire le moment où le piano est tout seul, on a l'impression qu'on joue à deux mains, tant il y a de notes, mais non, c'est une seule. Alors quelquefois le pianiste met sa main dans sa poche ou bien la pose avec un mouchoir dedans sur le meuble du piano pour prouver qu'il ne triche pas. Enfin, il n'y a pas besoin évidemment pour Pierre-Laurent Aymard de prouver quoi que ce soit. Voici la conclusion de ce concerto pour la main gauche de Maurice Ravel. Thank you. Conclusion du concerto pour la main gauche de Maurice Ravel par Pierre-Laurent Aymard en soliste avec l'orchestre de Cleveland dirigé par Pierre Boulez. Donc Pierre-Laurent Aymard demain, toujours Salle Pleyel, mais le chef est remplacé, donc Myung-Goon Chung souffrant sera remplacé par Fabien Gabel qui, je le garantis, vraiment beaucoup, beaucoup de nature, de talent et de musicalité. Alors c'est toujours donc à la Salle Pleyel et puis on pourra entendre aussi ce concert sur France Musique et il est diffusé aussi dans les unions, dans l'Union Européenne de Radio, dans une partie de l'Europe. On nous dit le plus grand bien aussi de Carmen. Carmen, c'est pas nouveau évidemment, mais c'est l'opéra le plus joué au monde. Carmen de Georges Bizet, toujours bien sûr, mis en scène par Carlos Wagner avec deux chefs, Claude Schnitzler, très connu déjà. Et puis pour aujourd'hui, ce soir à Nancy, José Miguel Essendi, exactement. Et donc, production encensée par la critique. Et donc, c'est l'occasion d'écouter une cantatrice qu'on souhaite ici dans cette émission prochainement, Isabelle Druet, et je vous propose justement quelque chose qui est en rapport avec l'Espagne, puisque Carmen, comme vous le savez, se situe par là-bas et même dans le sud. Et là, c'est Jules Massenet qui a écrit Nuit d'Espagne sur un texte de Louis Gallet. L'air est embaumé, la nuit est sereine et mon âme est pleine de pensées joyeuses. Ah oui, pensées au masculin, E-R.